La table de Clémence. Bienvenue pour ce nouveau numéro tout beau, tout chaud de la table de Clémence. Ce mois-ci, chers chanceux auditeurs de RCF Puy-de-Dôme, nous allons nous intéresser aux canards et plus particulièrement au foie gras. Car les fêtes approchent à grands pas. Et oui, il y a moyen de manger du foie gras de canard d'Auvergne, voire même du foie gras de canard d'Auvergne maison. Je suis allée rencontrer pour vous Catherine et Jean-Pascal Farge et une ribambelle de joyeux canards à Sainte-Agathe, entre Thiers et Ambert. Catherine vous parlera d'abord de leur exploitation, puis du foie gras plus particulièrement. Je vous livrerai ensuite, en exclusivité, quelques-unes de mes recettes. Ce sera après l'heure de l'agenda gourmand et nous finirons par une lecture pour vous mettre l'eau et les mots à la bouche. La table de Clémence. Vous êtes toujours à l'écoute de RCF Puy-de-Dôme et Catherine Farge se propose maintenant de vous raconter un peu l'histoire du foie gras et de vous aiguiller dans votre choix à l'approche des fêtes. Nous voici donc à Sainte-Agathe, à côté d'Olmé, entre Thiers et Ambert, au bout d'une route qui n'en finit pas mais qui est absolument magnifique. En plus, aujourd'hui, on a de la chance, il fait très très beau. C'était un véritable régal d'arriver jusqu'à vous, Catherine, ici, au Canard d'Agathe. Comment se met-on, dans notre région, à faire du canard ?
C'est un peu par hasard. Moi, j'ai une formation dans le poisson et mon mari a une formation dans le bois. Et voilà, lui, il est sorti de la forêt, moi, je suis sortie de l'eau et on a fait du canard. Non, c'est un peu particulier, mais effectivement, moi, j'en avais marre de faire ce que je faisais. Du coup, je suis allée me former dans le Périgord, si ça me plairait, le canard gras. Et ce qui m'intéressait dans le canard gras, c'est surtout qu'on peut faire du début à la fin tout le produit. Donc on démarre du petit caneton jusqu'à la transformation, la cuisine et tout. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Donc c'est ça qui m'intéressait.
Et vous avez beaucoup de canards. Enfin bon, pour moi, en Auvergne, on n'avait pas du tout cette tradition-là. J'ai été très surprise en découvrant que vous faisiez du foie gras, des tourtes aux canards, des confits, etc. Donc, vous avez un grand élevage ici.
Alors, on a un petit élevage. On fait 1000 canards par an. Donc, tout transformé. Donc, comme je disais, donc on fait l'élevage, le gavage, la transformation sur place. Et donc, on vend tout en vente directe. Ici, mais non, on n'est pas les seuls.
Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Enfin, bon, en tout cas, vous vendez sur Courpierre et sur Ambert au marché, et puis sinon, il faut venir chez vous.
Tout à fait, à la ferme. Oui.
Et en plus, vous avez ici donc une table d'hôte, enfin une ferme auberge, c'est ça ?
Voilà, depuis cette année, donc on a ouvert effectivement la ferme auberge, donc on fait les repas le samedi midi et dimanche midi, donc en juillet et en août. Et après, d'avril à juin et en septembre, on fait le dimanche midi. Et on propose nos produits sur un menu unique et on ne propose pratiquement que du canard.
Sauf le dessert. Oui, d'accord, c'est ça. Au dessert, non, on évite.
Non, on évite le foie gras au dessert. Non, il y a. Donc, on commence à l'apéritif avec des gratons de canard et l'apéritif. Après, la soupe de carcasse, donc avec les petits légumes de la région et nos carcasses de canard. Après, donc le foie gras, évidemment, sinon c'est pas la peine de venir ici. Après, on fait donc magret ou aiguillette flambée au cognac avec donc des pommes de terre cuites dans la graisse de canard. Encore du canard. Et là, après, on lâche le canard et on passe au fromage frais, mi-frais, donc qui est aussi d'un producteur de la région. Et après, donc dessert, donc c'est un sorbet qui vient aussi de quelqu'un de la région et un gâteau au chocolat. Là, le chocolat, pour l'instant, on est pour parler avec quelqu'un, mais pour l'instant, non, le chocolat, nous n'avons pas trouvé de producteur.
Vraiment, tout est quasiment en local.
On essaye au maximum parce que, justement, le but, c'est de mettre, nous, nos produits sur la table et de faire découvrir aussi les produits des gens qui travaillent à côté de nous. On a l'occasion sur les marchés, donc, de les rencontrer, de les connaître et donc on peut, sur notre ferme auberge, pouvoir positionner ces produits-là, quoi.
Tout est local et tout est bon chez vous. Y a-t-il une saison, du coup, pour les canards ? Question stupide, peut-être, mais il y a un moment où ils naissent, un moment où on les gave ?
Alors, on fait du canard gras tout au long de l'année, sauf juillet et août, parce qu'il fait trop chaud pour les gaver. Mais sinon, tout le reste de l'année, on commence de septembre à juin, on fait du canard gras. Donc, on les gave et on les transforme. Voilà.
Pour les gaver, vous utilisez...
Alors, nous, quand on s'est installé, on est allé voir à droite et à gauche tout ce qui se faisait et on a pris toutes les solutions, pas pour gagner du temps, mais plus pour gagner en qualité. Donc, c'est-à-dire que donc on va faire un élevage qui va être assez long par rapport à ce qui peut se faire. Donc, on fait minimum 13 semaines. Donc, après, on prend plusieurs lots de gavage dans un lot d'élevage. Et après, on va gaver au maïs en grain entier. Donc pendant 13 jours, donc c'est aussi une technique qui est un peu plus longue à faire que le gavage à la pâtée, mais qui donne des bons résultats. Et après, donc on va faire la transformation. Pareil, on a des petites techniques. On a rencontré des gens pendant ma formation, puis après qui nous ont embauché, très traditionnels, qui ont pu nous donner leurs recettes, qui ont pu nous apprendre leur passion du foie gras, qui nous ont refilé le virus, on va dire.
En tout cas, pour l'instant, on ne peut plus venir manger chez vous.
Mais on commence à refaire des boîtes, à faire des cassoulets, des pot-au-feu, des canards aux olives, donc du foie gras cuit ou mi-cuit, des confits, des coups farcis. Enfin bon, il y a des produits encore, mais c'est vrai que sur la table, à la table, non, nous n'avons plus.
Plein de bonnes choses à venir acheter chez vous.
On essaye qu'il y ait toujours quelqu'un du mercredi au dimanche, les après-midi. Mais sinon, après, si vous avez d'autres horaires, vous nous passez un petit coup de fil et nous, si on est là, on est là, hein, y a pas de problème.
Nous sommes donc toujours avec Catherine Farge pour les canards d'Agathe. Elle va nous expliquer l'histoire et les différences entre les foies gras.
Voilà, alors historiquement, le foie gras, c'est pas tout nouveau. C'est les Égyptiens qui l'ont découvert. Donc, les premières traces de foie gras qu'on ait, c'est sur une tombe égyptienne qui date de plus de 2000 ans. Vous voyez, c'est pas tout neuf. Donc, ils s'étaient aperçus d'une chose, c'est quand ils chassaient les oies sauvages avant leur départ en migration, elles étaient bien grasses, elles étaient bien bonnes, alors qu'en retour de migration, c'était un peu plus sec et c'était moins bon. Ils se sont aperçus de ça et donc, ils ont commencé le gavage, de gaver le canard. Donc, le gavage, c'est quoi? C'est donner à manger au canard ou à l'oie, plus que ce qu'ils ont besoin pour leur entretien physique, pour qu'ils stockent la graisse, donc sous la peau et dans le foie. Et au niveau du foie, donc, c'est quelque chose que le canard va faire juste avant de partir en migration. Et au niveau du foie, c'est la cellule du foie qui gonfle pour stocker la graisse à l'intérieur. Et pendant le voyage, il va peu ou pas manger. Et du coup, il va repiquer dans les réserves et le foie va redevenir taille normale à l'arrivée du voyage. Et comme ça, et pour démarrer, se regaver avant de repartir dans l'autre sens. Donc c'est quelque chose qui a été fait... qui est fait artificiellement, mais sur des animaux qui ont cette capacité-là de pouvoir stocker de la graisse au niveau du foie. Voilà.
C'est donc pas du tout une maladie?
Non, c'est pas une maladie, ça s'appelle la stéatose du foie, donc c'est le stockage de graisse. Alors nous, on n'aurait pas cette capacité-là, où il y a peut-être que 2-3% de la population humaine, on va dire, qui peut le faire, mais sinon, les canards, eux, peuvent le faire. Puis après, donc, ça a été des souches qui ont été sélectionnées, resélectionnées pour effectivement faire du foie gras. Je pense que notre foie gras actuel n'est pas du tout le même que celui que des Égyptiens, ça c'est sûr.
Ensuite, quelles sont les différences entre les foies gras maintenant à l'approche de Noël? Comment se retrouve-t-on entre tout les types de foie gras qu'on nous propose?
Voilà. Alors, il faut savoir, quand vous êtes devant un rayon foie gras en grande surface, ça a l'air énorme, mais en fait, il y a trois clés à savoir, c'est qu'il y a trois fabrications qui ont droit au mot foie gras sur l'étiquette. C'est le foie gras entier, foie gras et bloc de foie gras. Vous avez uniquement ces trois appellations-là qui ont droit au mot foie gras. Dès que vous avez un autre élément que du foie gras, obligatoirement, les deux mots, enfin le mot gras n'est plus sur la boîte dès que vous avez un autre élément. Donc ces trois fabrications-là sont des 100% foie gras. Alors le foie gras entier, le premier, donc c'est celui qui va être un morceau de foie, mais d'un seul canard. le foie gras, donc la deuxième fabrication, qui là peut provenir de plusieurs canards. Alors vous pouvez avoir une différence de couleur et de texture dans la même boîte que vous n'aurez pas dans le foie gras entier. Et après le bloc de foie gras, là c'est plein de foies différents qui sont mis dans une machine et qui sont broyés, hachés. Et après, arrivé à une certaine, le fait de broyer, ça va augmenter en température. Arrivé à une certaine température, ils vont rajouter de l'eau, du sel, du poivre, plus ses affinités. Ils ferment la machine et ils font le vide d'air. Et là, comme on a dit tout à l'heure que c'était le foie qui gonflait pour avoir la graisse au niveau des cellules, là, les précieuses petites cellules, en fait, ça va mélanger la graisse, les cellules et l'eau, et ça va faire une émulsion. Voilà, tout à fait, une émulsion. Et du coup, quand ils vont faire cuire après, cette pâte va rester uniforme et il n'y aura pas de fonte à l'intérieur. Mais il faut savoir que le bloc de foie gras est un mélange de plusieurs foies différents. Voilà.
Et puis d'eau. Vous faites-vous du bloc de foie gras ?
Non, nous ne faisons pas de bloc de foie gras. Mais après, vous pouvez avoir du très bon bloc de foie gras comme vous pouvez avoir du très mauvais bloc de foie gras. Ça va vraiment dépendre de la qualité de la matière première au départ, quoi, comme dans beaucoup de choses. Quoi.
Pour le foie gras entier, selon les usages qu'on veut en faire chez soi, qu'est-ce qu'on prend ?
Après, ces trois appellations-là, vous allez les avoir après en suivant des cuissons différentes. Vous avez le cuisson mi-cuit, la cuisson cuite, c'est ce qu'on appelle le cuit, et après vous avez le façon torchon, donc c'est ou en terrine. Donc ça va dépendre de la température à laquelle il est monté et comment on veut le conserver. On va dire le foie gras cuit, c'est un foie gras qui est assez porté en température, que l'on peut conserver à température ambiante parce qu'il est stérilisé, mais par contre c'est un foie gras qu'on appelle de garde, qu'on va mettre dans le placard et qu'on va oublier. Alors pas trop parce qu'on retourne la boîte de temps en temps. C'est comme les sardines.
Ah, il faut retourner les boîtes.
Oui, tout à fait. Le foie gras cuit, lui, on le met dans le placard, on l'oublie, mais on retourne la boîte pour que la graisse, en fait, protège toujours le foie. Parce que si vous le laissez toujours dans la même position, le dessus du foie va sécher. Alors que si vous le retournez de temps en temps, et ben la graisse va renrober le foie et va rester moelleux. Et avec le temps, ce foie, comme un bon vin, il va se bonifier, il va prendre des arômes. Voilà. Là, c'est le foie gras cuit. Donc qu'on achète, mais qu'on oublie dans le placard. Voilà. Après, vous avez le mi-cuit qui, lui... Alors, mi-cuit, ça ne veut pas dire qu'il est à moitié cuit et qu'il faut le faire recuire. Non, non. C'est juste qu'il est moins porté en température. Il est juste pasteurisé. Donc, il faut le conserver au frais. Mais par contre, comme il est moins porté en température, il va vraiment garder tous ses arômes tout de suite et on peut le consommer dans les 4 mois. Nous, on met 4 mois après la fabrication, mais certaines personnes mettent aussi 6 mois après la fabrication. Voilà. Et après, vous avez le façon torchon. Donc, lui, c'est plus un foie gras qui a été mis sous vide et cuit dans l'eau, il est protégé d'un film plastique, donc l'eau ne rentre pas. Mais là, c'est plutôt 15 jours, 3 semaines de date limite de consommation. Et après, en terrine, où là, ça sera une semaine de conservation. Voilà.
Pour ensuite cuisiner chez soi, pour poêler, qu'est-ce qu'on prend ?
Alors, en foie gras frais, vous pouvez ou faire en terrine ou poêler. Alors moi, ce que je préconise, c'est si vous n'avez pas de petit producteur à l'horizon qui peut vous faire un foie gras frais, si vous n'avez que la grande surface, je vous conseille d'acheter le foie gras congelé. Alors ça paraît bizarre, mais le foie gras congelé, pourquoi ? Parce qu'un foie gras, plus vous allez attendre avant de le transformer, plus les précieuses petites cellules qui ont été gonflées de gras vont s'abîmer avec le temps et risquent d'éclater à la cuisson, donc vont faire de la fonte. Donc, alors que le foie gras qui a été congelé, il est descendu très rapidement en température juste après l'abattage. Donc là, celui-là, on sait que les cellules sont bien protégées. Donc pour le décongeler, c'est tout simple. Vous le mettez au frigo la veille ou l'avant-veille et vous le laissez décongeler très lentement. Alors après, pour le poêler, moi, je conseille de ne pas prendre au-dessus de 450 grammes. Parce que plus vous allez prendre un foie gros, et bien plus vous allez avoir de la fonte au niveau de la cuisson. Parce que ces précieuses petites cellules, quand elles vont être en contact avec une surface très chaude, et bien elles vont éclater. Donc, et le foie s'il n'est pas trop gros, eh bien, il aura tendance à moins fondre que s'il est trop gros. Voilà. Donc, maximum 450 grammes. Par contre, en terrine, comme là, il est moins porté en température, vous pouvez monter jusqu'à 500 grammes, 550 grammes. Voilà. Et il faut choisir toujours au niveau couleur qu'il ait une bonne couleur nacrée et qu'il n'ait pas d'hématome dessus. Voilà. Pas de traces de sang et d'hématome.
Au moins, comme ça, on sera bien aiguillé. On va pouvoir passer un bon Noël dans 2 mois. Hein. On a le temps de tout bien préparer. Merci beaucoup pour ces précieux conseils.
La table de Clémence.
Eh bien, vous voici maintenant prêts à acheter vos foies, non ? Faire soi-même sa terrine de foie gras mi-cuit, ce n'est pas si sorcier. Le tout, c'est de bien commencer. Dévenez le foie délicatement, lobe par lobe. Laissez-le bien s'assouplir avant, à température ambiante, et procédez avec le doigt ou le dos d'une cuillère pour suivre les veines et remonter jusqu'au cœur de la bête sans trop l'abîmer. Ensuite, vous l'assaisonnez avec un mélange de 18 g de sel, 3 g de poivre, 3 g d'épices à foie gras ou de 4 épices et 3 g de sucre. C'est précis. Ceci, c'est pour 1 kg de foie gras frais. Je vous laisse le soin d'adapter à votre quantité. On répartit bien partout, on rajoute une giclée de cognac ou de porto, ou des deux, et on masse délicatement. Filmez bien au contact et laissez mariner au frigo jusqu'au lendemain. Toujours très important, on sort bien le foie avant de le travailler, pour pouvoir le mouler sans le casser. En restaurant, on utilise le sous-vide pour préserver toutes les saveurs, mais bon, à la maison, faut faire sans. Moi, j'aime bien utiliser du film alimentaire résistant à la cuisson pour bien enfermer le foie comme dans une papillote. Ou alors, on peut aussi utiliser de la crépine, hein, si on est anti-plastique. Donc, dans la terrine bien tapissée, on dispose les morceaux de foie bien égouttés en commençant par le plus beau, face lisse vers le fond du moule. Et on tasse fort, et on replie le film pour bien l'emprisonner. Avec une planchette et des poids, on le laisse prendre sa forme au frais un petit moment pour que le gras ait le moins de place possible pour s'échapper. Après, c'est la cuisson, à 120 degrés et au bain-marie. Que l'on démarre avec de l'eau déjà frémissante, ça c'est très important. Si vous avez un thermomètre de cuisson, c'est le top. Quand le foie arrive à 65 degrés à cœur, il est rosé. À 70, il est un peu plus cuit. Sinon, vous comptez 45 à 50 minutes. Alors là, on sort vite sa terrine et on lui passe les fesses dans un bain bien froid, auquel on a ajouté quelques glaçons, pour arrêter la cuisson d'un coup d'un seul. Et on garde au frais jusqu'à dégustation. Consommez-le tout de même dans les 4 à 5 jours et filmez toujours au contact pour éviter l'oxydation. Enfin, si vous voulez essayer le foie gras poêlé, une chose très importante, il faut toujours démarrer la cuisson dans une poêle très très chaude et sans matière grasse pour bien le saisir. Par exemple, servi sur un petit velouté de châtaigne, avec mettons un toast de pain de seigle aux noix pour faire flotter votre escalope, c'est une merveille. Pour le velouté, c'est une boîte de châtaigne que vous mettez à recuire dans du fond de veau et de la crème liquide. Puis, vous mixez. Si vous n'avez pas tout retenu, vous pourrez réécouter l'émission sur mon blog et lire toutes ces informations sur Envies et Délices. Et puis, il y a maintenant des cours autour du foie gras proposés un peu partout, et surtout au lycée professionnel hôtelier de Chamalières, à l'atelier des saveurs, pour devenir un pro du foie gras. Sinon, vous pouvez aussi voir du côté de Tata Lulu, des toques d'Auvergne, ou à Des Idées pour la cuisine.
RCF, la radio dans l'âme.
Et maintenant, chers auditeurs de RCF, on garde les crayons, car voici l'agenda gourmand de ce mois de novembre. Le 6 novembre, à Saint-Gervais-d'Auvergne, aura lieu le 24e concours Charolais, reconnu par le Heurdebouck Charolais lui-même. Autant dire que ce n'est pas de la roupie de Sansonnet. Une 50aine d'éleveurs sont attendus de l'Allier, de la Creuse, de la Nièvre et du Puy-de-Dôme, avec environ 200 bovins, rien que ça. Dimanche 7, à 12h, est organisé un repas autour du Charolais, et à 17h, le taureau du concours sera pesé. De quoi tous nous réconcilier avec nos balances. Si ce dimanche, vous avez la flemme d'aller jusque dans les Combrailles admirer de belles bêtes, je vous propose alors la Foire du Goût à Vermonton. Vous y trouverez, cela va de soi, des exposants en gastronomie et artisanat d'art. Mais vous aurez droit aussi à des démonstrations de danse folklorique auvergnate et pour les enfants, à des balades en poney. N'est-ce pas merveilleux ? Le jeudi 11 novembre, pour occuper votre jour férié, vous pouvez courir à la Roche Blanche à la foire à la pomme et aux produits régionaux en présence de l'éminente confrérie des croqueurs de pommes. Nous arrivons donc à l'incontournable troisième jeudi de novembre, le 18, et à l'arrivée du non moins immanquable Beaujolais nouveau. Alors, aura-t-il goût à banane, groseille, framboise ? Pour ceux qui n'ont pas d'enfants à garder à la maison, suivez mon regard, rendez-vous dans tous les bons débits de boissons, bistrots, cafés, estaminets de votre connaissance, à condition de le consommer avec modération, bien entendu. Si vous ne savez pas où aller, faites un tour au bistrot bancal, rue des Chaustiers à Clermont. Je suis sûre que François et ses amis vous dégoteront des Beaujolais, nouveaux ou pas, qui sauront vous étonner et enfin satisfaire vos papilles. Et ne vous inquiétez pas, on prévoit tout à la table de Clémence. Pour les retardataires et les parents qui n'ont pas pu aller faire la tournée des bars, les 20 et 21 novembre a lieu la 23e fête du Beaujolais Nouveau au Cendre. Le dimanche 20 novembre, Combronde inaugure la saison des marchés de Noël avec des stands proposant de l'artisanat, des bijoux, des vins, du foie gras et nombre d'autres objets pour notre plus grand plaisir. Suivront le dimanche 28 celui de Charbonnier-les-Mines et de Cueil, avec son marché du second dimanche de l'Avent. Ouvrira également ce jour-là le marché de Noël de Clermont-Ferrand, place de la Victoire. Ah, et puis, pour ceux que les canards et la sympathie de Catherine Farge auraient séduit, sachez qu'elle-même ou son mari seront présents sur le marché de Noël de Sébaza, les 4 et 5 décembre. On vous aura prévenu. Après une très courte pause, nous devrons malheureusement nous quitter, très chers auditeurs de RCF Puy-de-Dôme, mais pas avant une lecture d'un extrait du Cuisinier de Talleyrand, de Jean-Christophe Duchamp-Doris. La table de Clémence. Canard flambé au jus et aux groseilles. Les cuisines étaient de nouveau plongées dans un étouffement chaud de chambrée, une moiteur d'écurie. Les reflets sanglants des fours allumés dansaient le long des murs, jusqu'aux poutres du plafond. Les bruits prenaient une sonorité rauque, sans un écho, dans l'air saturé de fumée. Des haleines grêles sifflaient, accompagnées du remuement ininterrompu des ustensiles. Carême avait découpé menu les coups, les ailerons et les pattes des canards pour préparer le jus. Les abatis avaient pris une belle couleur noisette. Il avait jeté la graisse, ajouté un petit pain de sucre coupé en 5 ou 6 morceaux, remis l'ensemble sur le feu. Il était allé prendre le vinaigre, préparé à la juste mesure, 1/5 de la bouteille. La couleur était devenue caramel. Vite, il était allé poser la casserole sur la cendre chaude du potager, avait versé le vinaigre. Une vapeur dense, suffocante, s'était élevée. Il avait ajouté un bouquet garni, des aromates, un peu de gros sel, le tout recouvert d'eau, à niveau. Il avait laissé cuire une bonne heure à gros bouillon. La science du cuisinier consiste aujourd'hui à décomposer, à faire digérer et à quintessentier les viandes, à en tirer les sucs nourrissants et légers, à les confondre de façon à ce que rien ne domine et que tout se fasse sentir, enfin à leur donner cette union que les peintres donnent aux couleurs. Un écuyer lui avait préparé la bouteille pour le flambage. Les couteaux avaient été disposés à côté de la planche à découper. D'un geste théâtral, Carême doucha 2 canards à la peau croustillante, 2 volailles sacrifiées à 4 semaines. La flamme alla lécher les opalines jaunes du lustre. N'avez-vous rien d'autre à me confier ? Rien d'autre que je n'apprendrai tôt ou tard et qu'il serait regrettable que vous ne m'ayez pas dit ? Carême jeta un coup d'œil rapide à Jeannesse. De ses mains expertes, il découpait les poitrines épaisses en fines aiguillettes. Les tranches rosées, perlées de jus, cernées de croûtes d'or, s'alignaient dans le plat bouillant que tenait le commis. « Vous m'accusez ? »
Ils se toisèrent un court instant, Jeannès avec son regard clair, si clair qu'on eût dit que les flammes bleues de tout à l'heure continuaient à y flamber, et Carême, l'œil noir, tranchant, aiguisé comme les longs couteaux qu'il brandissait. « Et pourquoi aurais-je fait cela ?» À cette question, Jeannès n'avait pas de réponse. « L'heure est venue du coup de collier, monsieur, » ajouta le jeune chef d'un ton glacé. « Je vais vous demander de nous laisser travailler. » Il bouscula légèrement le policier pour s'approcher de la poêle où le beurre que le commis avait déposé commençait à grésiller. Jeannès n'insista pas. Il fit un pas de côté. Carême précipita dans le récipient un grand bol de groseille, qui, au contact de la graisse chaude, se foncèrent rapidement. Il ajouta le zeste et le jus d'un citron, ce qui provoqua un fort crépitement, puis retira l'ensemble du feu. Le bouillon d'abatti avait bien réduit. Il le passa à l'étamine. Puis d'un mouvement sûr, il nappa les canards du mélange de jus et de la sauce aux groseilles. « Et ce sera servi avec ?» demanda-t-il au sommelier avec le ton d'un maître interrogeant un élève. « Du givry fruité, » répondit le vieil homme d'un ton sec, « le Bourgogne préféré d'Henri IV. »
La table de Clémence.